With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un couple sur quatre en âge de procréer est touché par l'infertilité en France, selon un rapport remis en février 2022 au ministère de la Santé. L'infertilité, les infertilités, concerneraient environ 3,3 millions de personnes. Des techniques d'assistance médicale à la procréation, PMA, aident les couples hétérosexuels, les couples lesbiens et les femmes seules à procréer en France. À la fin des années 2010, environ 3,4% des enfants français naissent grâce à ces techniques. La PMA, rappelons-le, c'est l'ensemble des pratiques médicales, cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux, des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Différentes techniques qui sont prises en charge sous certaines conditions par l'assurance maladie. Dans ce parcours de PMA qui peut être long, le professionnel de santé entre dans la vie du couple. Fracasse, parfois, ce projet d'enfant conçu dans l'intimité, à deux. Entre les nombreux examens prescrits, parfois douloureux, l'attente, l'espoir, les échecs, nombreux sont celles et ceux qui évoquent un parcours du combattant pendant une PMA. Dans cet épisode de Minute Papillon, on évoque cette intimité du couple parfois chamboulée par la PMA, du passage d'une sexualité plaisir à celle reproductive. Notre invitée est Aurélie Ronfaux, doula, directrice de création et designer, créatrice du site et du podcast Le Trimestre Zéro. Aurélie Ronfaux a publié « L'aventure de la vie », un guide du désir d'enfant et de la PMA chez Vuibert. Bonjour Aurélie Ronfaux. Première question, un peu vaste. Comment la PMA influe-t-elle sur les relations de couple ?
Effectivement, c'est un parcours du combattant. Ça implique beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous médicaux, une intimité beaucoup pour la femme dévoilée, beaucoup de prise de médicaments aussi, des changements corporels, des changements hormonaux, émotionnels. Et donc forcément, quand on est en couple, que ce soit un couple hétéro ou homosexuel, si on a des changements personnels, ça implique le partenaire. Et pour le coup, la sexualité peut être impactée. Alors, sans faire de généralité, elle est forcément impactée. Parce que le rapport que l'on a au corps pendant un parcours de PMA est modifié. On va passer d'une sexualité plaisir de couple à une sexualité reproductive.
La sexualité reproductive, ça veut dire quoi concrètement ?
La sexualité reproductive, c'est que le couple va avoir une sexualité dans l'objectif d'avoir un enfant versus une sexualité plaisir où, avant d'avoir ce désir d'enfant, on explore sa sexualité sans enjeu majeur à part se faire plaisir. Là, ça va un petit peu s'inverser, beaucoup s'inverser, et la reproduction va être un objectif. Alors, le mot est pas beau, mais justement, ça va devenir un objectif.
Notamment des rapports sexuels qui sont programmés.
Alors, les rapports programmés, ils ont lieu pas forcément de manière systématique. C'est dans le cadre d'une stimulation ovarienne, donc qui va être, on va dire, peut-être l'une des premières étapes d'un protocole de PMA, où là, avant de rentrer dans le vif du sujet avec ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, les FIV, il va y avoir juste des stimulations ovariennes. Et là, les rapports vont être programmés, où on va dire, c'est à ce moment-là que vous avez ovulé, et donc ayez un rapport sexuel programmé. Si on va plus loin dans la PMA et dans ce qui est proposé en aide médicale, le rapport n'a même plus à être programmé. Et c'est là aussi que ça peut être très déroutant, c'est que le référentiel change complètement. La procréation ne passe plus forcément par le rapport sexuel.
Vous avez parlé de la FIV, on va développer. FIV, c'est fécondation in vitro, c'est quoi exactement ?
Alors la fécondation in vitro, c'est la femme qui produit tous les mois des ovules, Ces ovules vont être ponctionnés sous anesthésie générale ou locale.
Donc retirés du corps de la femme.
Récoltés du corps de la femme. En parallèle, si on parle pour un couple hétérosexuel, l'homme va aller faire un recueil de sperme, donc se masturber pour recueillir les spermatozoïdes. Et en laboratoire, les ovules récoltés à l'extérieur et les spermatozoïdes récoltés aussi à l'extérieur vont être mis ensemble dans une petite éprouvette pour qu'il y ait naissance ou pas d'embryon. Du coup, on parle de fécondation à l'extérieur du corps de la femme, donc in vitro.
Vous le disiez dans votre première réponse, des examens nombreux et qui peuvent être invasifs pour la femme, voire chez l'homme. Alors, c'est quoi globalement ces examens ?
Au départ, il y a des examens de bilan pour savoir où on en est dans sa fertilité, justement, et savoir s'il y a besoin d'avoir un recours à une aide médicale. Et puis, pendant les protocoles, ça va être donc ce que je disais tout à l'heure, de la stimulation ovarienne, parce qu'il va falloir produire ses ovules. En temps normal, une femme, à chaque cycle, produit 1 à 2 ovules par mois. Là, l'objectif, dans le cadre d'une PMA, c'est d'optimiser tout ça et donc d'en produire beaucoup plus. Donc ça, c'est stimulé par des hormones qui sont injectées par piqûre tous les jours, quand on est en protocole. Et pour voir comment ça évolue, ça va être un rendez-vous toutes les 48 heures avec le ou la gynéco pour faire des échographies pelviennes, donc vaginales, pour contrôler l'évolution interne.
Vous avez un podcast, le trimestre zéro, donc vous rencontrez quand même pas mal de couples, de personnes qui sont confrontées à la PMA, qui sont confrontées aussi au FIV. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce parcours du combattant qui est la PMA et comment cela influe sur les relations de couple ?
Globalement, c'est très dur. Je pense que personne ne s'y attend, comme n'importe quelle difficulté dans la vie. Hein, mais c'est compliqué de se rendre compte de tout ce que ça implique. Après, dans la vie d'un couple, ou d'une femme, ou d'un homme, moi, ce que je constate, c'est que plus le temps passe et plus on peut faire ce parcours une force, parce qu'il faut parler, parce qu'il faut partager, échanger, se transformer, en fait, tout simplement. Donc, je fais ce parallèle qu'on parle d'un parcours du combattant, mais que ça peut devenir un chemin de vie initiatique. Ça va être la même chose pour la sexualité. C'est qu'on peut le prendre comme quelque chose qui vient perturber une sexualité et qui est négatif, mais on peut aussi en faire quelque chose pour le transformer de manière positive et finalement réexplorer autrement son corps, la communication dans le couple, la sexualité qui peut aller bien au-delà de ce qu'on imagine ou ce que la société nous pousse à imaginer aussi, de ce que doit être une sexualité.
Quels sont en gros des leviers, plutôt que des conseils, des leviers pour transformer ces examens répétitifs, ces nouvelles qui sont parfois pas très satisfaisantes, ce projet de bébé qui tarde parfois sur plusieurs mois, parfois sur des années, parfois qui ne se réalise pas. Comment faire de ce parcours un levier pour la résilience et pour prendre confiance en soi et renouveler sa relation de couple?
Alors déjà d'une, c'est pas facile, ça prend du temps, mais je dis ça surtout, enfin pas du tout pour décourager, mais pour dire que c'est normal s'il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres. Maintenant, je pense que c'est un parcours qui invite à être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de son partenaire. Personne ne peut garantir qu'il y a un bébé qui arrive, mais si on veut que dans la durée, en tant qu'individu et en tant que couple, on s'y perde pas et que voilà, on continue à vivre de manière heureuse et apaisée. De réapprendre à avoir confiance en soi, même si elle est malmenée, l'écoute de soi, je pense, permet de reprendre confiance en soi, de s'entourer si c'est possible. Pareil, ça dépend des périodes. Il y a des fois on n'a pas envie, mais quand c'est possible, s'entourer des bonnes personnes peut permettre de traverser tout ça. Et puis, de reconsidérer aussi son pouvoir féminin et son pouvoir masculin. Pour donner un exemple concret, quand on est dedans, l'arrivée des règles, par exemple, est vécue de manière très, très, très difficile, parce qu'elle représente un échec, ce qu'on n'a pas réussi à avoir et qu'on souhaite vraiment, mais on peut voir aussi les règles comme une renaissance, comme un renouveau et comme la possibilité que au prochain cycle, ça puisse peut-être éventuellement fonctionner. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de futur bébé non plus. Donc voilà, c'est d'essayer de changer son regard sur ce qu'on imagine au premier abord des choses qui nous arrivent, en fait. Bon, on peut se faire accompagner, et encore une fois, d'être à son écoute et respecter. Il y a des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie, des fois c'est le bon moment, des fois, c'est pas le bon moment.
Parce que dans le couple, on est deux, et on peut avoir des temporalités différentes.
Bah, moi, les couples que je rencontre, alors faut pas croire que tout est... Enfin, effectivement, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose. Mais je pense que soit les couples cassent, parce qu'effectivement, c'est difficile comme une grosse épreuve de la vie, soit pour le coup, ils en ressortent complètement soudés, et plus que soudés s'il n'y avait pas eu une épreuve difficile dans la vie. Et le couple, bah, c'est une histoire d'harmonie, une histoire une partition de musique qu'il faut essayer de suivre et d'accepter avec voilà, ses aléas et... Mais avec de la communication, moi, je suis persuadée qu'on peut faire de belles choses et la sexualité est une forme de communication. Donc, elle peut changer et il faut s'adapter et l'explorer.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.